Que le nom du Seigneur soit béni. Bonsoir, chers frères et sœurs. Quelle grâce de nous retrouver sous le regard de Dieu. Nous allons faire quatre lectures, s'il vous plaît. La première dans l'évangile de Jean, au chapitre 15e. Jean, chapitre 15. Évangile de Jean, chapitre 15. Du verset 1er au verset 5. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 1er. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Dans le psaume 60, il nous est dit au verset 13 à 10, verset 13 à 14, un texte où un homme demande le secours de Dieu. Il a vérifié que sans sa grâce, on est tous perdus. Psaume 60, verset 13. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. D'un côté, nous avons lu que sans lui, nous ne pouvons rien faire et qu'avec lui, nous pouvons faire des exploits. Les siens, bien sûr, pas ceux que nous soupçonnerions, mais les siens, ceux qu'il a préparés. Nous allons lire dans Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Ces textes que je vous encourage à lire, ainsi que Romains 6, 7 et 8. Galates, chapitre 5, ces textes que l'on a lus, que l'on a acceptés, mais que l'on n'a peut-être pas bien compris. Colossiens chapitre 3, on va lire du verset 1er au verset 10. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Un petit peu avant, dans l'épître aux Galates, Galates chapitre 5, verset 16 au verset 25. Galates chapitre 5, verset 16e. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui tentent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes d'accord avec chacune de ces lectures? Est-ce que vous croyez que sans Jésus, on ne peut rien faire? Faire des choses par la chair, bien sûr, par la religion et par la tradition. Mais on ne pourra pas faire les œuvres qu'il a préparées. Est-ce que vous croyez qu'avec Dieu, on peut faire des exploits? Est-ce que c'est un désir personnel ou est-ce que ça peut être la volonté de Dieu que nos ennemis soient repoussés, écrasés, etc.? Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Alors, nous avons déjà partagé plusieurs aspects de la vie selon l'esprit. Nous avons donc compris que le chrétien qui est né de nouveau, qui a vraiment accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur et qui a été régénéré, il possède en lui, c'est déjà en lui, tout ce qu'il lui faut pour apprendre à marcher selon l'esprit. C'est une chose d'accepter ce qui est écrit. Je crois pouvoir dire que mon avis de résurrection, j'avais compris certaines choses. Je vous donne un exemple. Ce qui me concerne, quand même, heureusement, j'avais compris pas mal de choses sur la vie de résurrection. Mais voyez, si on n'a pas compris ce que c'était la mort en Christ, la vie de résurrection ne pourra pas se manifester. Et si nous comprenons, par exemple, que la vie de résurrection, sans comprendre la mort en Christ, nous serons obligés de vivre de toute façon d'une manière charnelle, puisque nous ne serons pas passés par cette mort-là. Voyez donc qu'il faut bien comprendre les choses, bien expliquer le côté positif de la croix, le côté que nous pourrions appeler négatif, mais il est certain que nous devons étudier ces choses, les comprendre afin de pouvoir les expérimenter. Pour ma part, ce qui m'a, je pense, beaucoup pénalisé, c'est que je n'ai pas suffisamment compris ce que je suis en train de vous expliquer dans le passé et que je n'ai pas pu vraiment l'expérimenter. Et je crois que le diable, il fera feu de tout bois pour que, justement, nous ne comprenions pas tout ce que nous sommes en Jésus-Christ pour nous faire fausser le chemin. Vous comprenez? Plus nous comprendrons l'œuvre bénie de tout ce que Jésus a accompli sur la croix, plus il nous sera facile d'entrer dans cette expérience et d'être fortifié. D'ailleurs, j'ai donné comme titre à ma prédication, le sous-titre, « Comprendre avant d'expérimenter ». Lorsque Jésus a dit « Je suis la porte », nous comprenons facilement que pour qu'un pécheur puisse entrer dans le royaume de Dieu, il est obligé de passer par la croix. C'est bien sûr que ce n'est pas une porte matérielle. Mais nous le comprenons bien, le seul moyen pour un pécheur d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est de passer par la croix. Seulement la croix permet à un pécheur d'être libéré du péché. C'est pour ça que moi je dis aux gens, des fois qui me demandent le baptême, mais non, d'abord, il faut vous convertir, il faut vous repentir, il vous faut demander pardon à Dieu de tout votre cœur. La croix est le passage obligé pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais la croix est aussi le passage obligé pour le chrétien qui veut marcher par l'esprit. Et c'est tout ce qui nous préoccupe depuis plusieurs semaines. En mourant sur la croix, le Seigneur nous a pardonné quand nous nous convertissons, mais il nous a introduit dans cette mort. Et si on n'a pas compris, on ne peut pas entrer dans cette vie de résurrection. C'est quelque chose d'extrêmement solennel. Plusieurs personnes m'ont dit dimanche, je commence à comprendre. Certaines m'ont dit, j'ai rien compris. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal que certaines personnes ne comprennent pas. Il faut quand même se familiariser avec ces textes que nous lisons et que nous relisons chaque jour ou chaque fois que nous nous réunissons. Nous sommes morts. Nous sommes morts en Christ. Et pourtant, il nous est demandé de faire mourir ce qui est dans nos membres charnels. On l'a lu. Revenons à Colossiens. Revenons-y. Moi, ce texte, je l'ai lu plein de fois. D'ailleurs, j'avais entendu mes prédications au début de ma conversion et ça n'avait pas du tout été expliqué comme cela, pour vous dire qu'il y a plusieurs interprétations par rapport à ces textes bibliques. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes morts au péché. D'accord? Vous êtes d'accord pour faire? Mais la vieille nature, est-ce qu'elle meurt automatiquement? Eh non. Vous voyez? On a beau chanter une nouvelle création, on aime chanter ce petit cœur quand les commandes. Mais une nouvelle création, plus sous la condamnation. Mais nous avons quand même vérifié que malgré le fait que nous sommes une nouvelle création, il y a des choses qui ont besoin d'être réglées encore. Oui ou non? Et pourtant, c'est vrai que nous sommes une nouvelle création. J'attendais quelqu'un un jour, me disait, tu es une nouvelle création, toutes choses sont devenues nouvelles, tu ne devrais plus avoir de problème. Vous voyez, je l'ai dit, il n'y a que l'esprit qui est régénéré. L'âme a besoin de choses encore. Donc on le lit, on le relit. Verset 3. Vous êtes mort. D'accord. C'est ce que je vous explique. Vous êtes mort. Et pourtant, au verset 5, qu'est-ce qui est écrit? Faites donc. On voit bien cela. Vous voyez? Nous avons été affranchis du péché. Nous avons été délivrés. Et il nous faut rentrer dans ces richesses que Dieu a préparées. Nous le lisons, en lui sont cachés tous les trésors de la connaissance. On le voit, tous ces versets qui nous laissent supposer qu'il y a des richesses infinies à obtenir en Christ. Mais lorsque nous lisons, par exemple, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il faut que nous comprenions ces choses pour que nous soyons réellement affranchis. Il y a des chrétiens qui aiment Jésus et ils ne sont pas affranchis. Ils continuent à être esclaves du péché et ils doivent être profondément frustrés lorsqu'ils lisent Jean chapitre 8, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Est-ce que vous croyez qu'on peut être réellement libre? Moi, je le crois. Je le crois de tout mon cœur, Jésus l'a dit. C'est vrai que pour le salut, tout est accompli. Et nous n'avons pu obtenir le salut que parce que nous avons, par la foi, cru à la bonne nouvelle. Vous êtes d'accord avec moi? Quand est-ce que nous avons pu être sauvés? Quand nous avons vraiment cru que Jésus était mort sur le bois de la croix pour nos péchés. Oui ou non? On ne l'a pas senti. On l'a cru, et parce qu'on l'a cru, par la foi, on l'a reçu. Vous êtes d'accord avec moi? On ne reçoit pas le salut avant d'avoir accepté par la foi. D'accord? Si vous avez dit, moi, quand je sentirai le salut, je me convertirai, vous serez toujours en train d'attendre. Et c'est pareil pour la vie de l'esprit. Pour obtenir le salut, nous avons fait un acte de foi. Vous êtes tous d'accord? Personne ne peut pas. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a un gros, gros problème. Mais pour la vie de l'esprit, c'est exactement la même chose. Il faut faire un acte de foi. Il y a un acte de foi à saisir. C'est pour ça qu'avec nos propres forces, on n'y arrive pas. Nous avons saisi le pardon des péchés par la foi. Nous devons saisir la victoire sur notre vieille nature par la foi, notre mort au péché. C'est quelque chose d'important. Et je vous assure, le diable, il fera tout pour que nous ne saisissions pas cette vérité par la foi. Nous devons le croire, parce que la Bible le dit. Vous êtes mort. C'est quelque chose que vous devez absolument croire. C'est vrai que la vieille nature, elle va regénérer, mais vous devez le croire. Vous n'avez pas dit, quand je recevrai le pardon des péchés, je croirai. Vous n'avez pas dit ça. Vous avez cru et vous avez obtenu le pardon des péchés. C'est ce qui est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. On n'est pas sauvé avant d'avoir cru. Eh bien, c'est pareil pour la mort au péché. Il faut le croire. Vous avez cru que vous avez reçu le pardon des péchés. Vous n'avez pas attendu de voir quelque chose se manifester. C'est pareil. Cette réalité, vous devez la croire. Lorsque nous croyons quelque chose, le Seigneur peut permettre qu'elle s'accomplisse. N'oubliez jamais, c'est valable pour le salut, c'est valable pour la marche par l'esprit. Tout se reçoit par la foi. Vous le croyez que le juste, il doit vivre par la foi. Et si nous croyons, si nous ne croyons pas que nous sommes morts en Christ il y a 2000 ans, parce que c'est ça qu'il faut croire, nous ne pourrons pas mettre à mort la loi du péché. C'est pour ça que Paul dit, mais vous êtes morts, et puis après il dit, faites donc mourir. Parce que la loi du péché, hélas, hélas, et trois fois hélas, elle agira toujours dans nos membres. C'est écrit. Et ça, c'est sûr que ça, on aimerait qu'il en soit autrement. Pourquoi Dieu a-t-il voulu ainsi? Il a certainement de bonnes raisons. Et il n'y a que la parole de Dieu, vivante et efficace, qui peut séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit. N'oubliez pas quand Paul parle de l'épée de l'esprit. Il n'y a que la parole de Dieu. Et je vous assure, en étudiant ces textes, je me rends bien compte que ce n'est pas moi ce que je pense qui est important, mais c'est la parole de Dieu qui est vivante et qui doit séparer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre. La parole de Dieu, c'est une arme spirituelle. Et la parole de Dieu, il y a qu'elle qui peut nous permettre de comprendre la différence entre l'âme et l'esprit. On est en plein dedans. Pour certains, c'est confus. Pour d'autres, je vois que ça commence à s'éclairer. Mais si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous n'utilisons pas la parole de Dieu, nous serons incapables de comprendre la différence entre l'âme et l'esprit. Il y a des chrétiens qui sont convertis et qui, pour le moment, c'est notre faute à nous, ne sont incapables de faire la différence entre ce qui est de l'âme et entre ce qui est de l'esprit. C'est vous dire tout le travail qu'il y a à faire. Mais le Seigneur, il va nous aider. Quand vous comprenez quelque chose, vous pouvez le séparer. À partir du moment où vous comprenez ce qui est de l'âme, vous comprenez ce qui est de l'esprit, vous allez voir, ça sera beaucoup plus facile de le séparer. Pour connaître la mort au péché, nous devons croire qu'au calvaire, il est mort au péché pour nous. Il n'est pas mort que pour le pardon, il est mort pour le péché. Mais voilà, c'est par la foi que les choses se réalisent, c'est par la foi que les choses se vivent, et cette nature, elle ne meurt pas automatiquement. Voilà, je mets à mort la vieille nature, c'est réglé une fois pour toutes. Non, il faut la maintenir dans cette crucifixion. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit qui domine, c'est la chair qui prendra le dessus, je le relis, c'est le départ. Le départ, vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Il faut le comprendre, ça. Au calvaire, nous sommes morts avec Jésus-Christ. Mais la continuité, c'est ça. Faites mourir. Ou au verset 8, qu'est-ce qu'il est dit ? Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Vous voyez, faire mourir. J'avais lu un livre de Wachmani, d'ailleurs, où il expliquait que pour faire mourir quelque chose, il fallait ne plus l'alimenter. Voilà. Jérémie, si tu as des lapins, tu n'en as plus à manger, il va mourir. Voilà. Et si nous n'alimentons pas la chair, eh bien, on va la faire mourir. Et c'est exactement ce que Paul est en train d'enseigner. Ça voudrait dire, n'alimentez pas la chair. Parce que le monde, avec tous ses artifices, ne fait que ça, alimenter la chair. Bon, écoutez, est-ce que je vous apprends quelque chose ? Est-ce que vous êtes en train de dire, oh, monsieur Gaud, ce soir j'ai compris. Oh, le monde, c'est vrai. Oh, vous le savez. Tout dans le monde est fait pour alimenter cette chair. Et c'est pour ça qu'il faut que nous, au contraire, nous soyons séparés des choses du monde. On doit vivre dans le monde. On doit avoir une vie sociale. On doit avoir une vie normale dans le monde. Il ne nous a pas sortis du monde. Il veut que nous sortions de l'esprit du monde. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et si quelqu'un n'est pas né de nouveau, ça va énormément affaiblir le royaume de Dieu. Imaginez-vous, dans une église, il n'y a que 50% de gens qui sont convertis. Est-ce que ça peut arriver ? Est-ce que vous pensez que ça peut arriver, même aujourd'hui, dans nos églises ? Mais oui, ça arrive. Moi, je suis incapable de dire, je ne veux pas savoir. Mais dans l'Assemblée, je le sais. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas nés de nouveau. Ça, c'est clair. Bon, alors, ce n'est pas le sujet de ce soir. La foi dans la mort et la résurrection de Jésus sont indispensables pour le salut. Ce n'est pas parce que vous étiez catholique, ah, je deviens évangélique, je crois dans la doctrine, elle me plaît, c'est une belle doctrine, ah, on nous l'explique bien à Saint-Agne, vous ne serez pas sauvé parce que vous comprenez la doctrine. Vous serez sauvé parce que la foi dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ vous amèneront à la repentance et vous obtiendrez le salut. Donc, la foi dans la mort et la résurrection de Jésus sont indispensables pour le salut, mais la foi dans notre mort en Christ nous permet d'appliquer la croix. C'est pour ça qu'on va comprendre que la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Et nous verrons, frères et sœurs, la bénédiction. Parce que là, c'est vrai que depuis quelque temps, j'ai tendance à prêcher sur le côté négatif, mais vous allez voir quand on va entreprendre le côté positif, la bénédiction qui va résulter de tout cet enseignement. Oui, tout ce qui a été accompli au calvaire, tout. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Quand on l'a lu pour la première fois, on n'a pas trop compris ces trois mots. Hein, vous êtes d'accord avec moi ? Tout est accompli, la septième parole de Jésus sur le bois de la croix, on sait bien, il a tout accompli, il a été jusqu'au bout, c'est bon, il n'a pas fait de faute, il a tout accompli, on est sauvé. Mais tout est accompli, signifie que tout ce dont nous avons besoin pour marcher sur la terre, pour être remplis du Saint-Esprit, pour faire les œuvres de Dieu, c'est pour moi maintenant. Dès ce soir, N'importe quel chrétien peut dire, moi je suis dans le Christ. Le Christ est en moi. Les œuvres qu'il a préparées, je peux les vivre. Alléluia. Même si nous avons perdu beaucoup de temps, nous pouvons vivre toutes les œuvres que Dieu a préparées. Elles sont prêtes. Et c'est ce fameux moi, parce qu'il y a le nouveau moi, cette vie nouvelle, qui est régénérée, qui est là. Et si elle ne comprend pas les choses, la chair va l'étouffer, et nous ne pourrons pas mettre à mort notre ancien moi. Parce qu'en fin de compte, il y a deux moi en nous. Le vieux moi, la vieille nature, et le nouveau moi. Et si je reçois la parole de Dieu, comme vous êtes en train de le faire, si vous êtes en train de dire, je comprends ces choses, il y a en moi une loi de péché, il y a en moi une loi de vie, et laquelle c'est qui domine. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, on ne voit pas la différence avec des païens. Vous n'avez jamais été écœuré de voir le comportement de certains chrétiens? Mais celui-là, ce n'est pas possible, il n'est pas converti. Vous n'avez jamais dit ça de quelqu'un? Allez, vous n'avez jamais dit ça de quelqu'un? Sérieusement? Vous avez dit, mais oui. C'est pourquoi? Parce que, malgré le fait qu'il soit régénéré, c'est la loi du péché qui continue à dominer son âme. Quelle affaire, quel dommage pour l'avancement du royaume de Dieu. Et s'il y a des églises aujourd'hui où il y a de moins en moins de chrétiens, c'est parce que l'on ne vit pas selon l'esprit, mais on vit selon la chair. C'est pour ça que la parole de Dieu, il faut la recevoir avec foi. Si on ne reçoit pas par la foi, on ne peut pas mettre en pratique. Et cet enseignement, si vous ne le recevez pas par la foi, il ne vous servira à rien. Sinon, qu'à augmenter votre connaissance, votre autosatisfaction. L'enseignement, il n'est pas pour la théologie. L'enseignement, il est pour que tout se devienne pratique. Ça serait triste, 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 si tout ce qu'on va partager ne se transforme pas en pratique dans les semaines à venir. Vous avouez que ça serait dommage si ça restait juste au niveau de l'intellect. Si je ne réalise pas que je suis mort en Christ, ça peut-être que vous ne l'aviez pas encore réalisé, c'est la vieille nature qui va dominer. Si vous réalisez, si nous réalisons, je me mets avec, que ce soit vous ou nous, c'est pareil. Si je réalise que je suis mort en Christ, lorsqu'il est mort pour moi, si je le réalise, je vais utiliser ma nouvelle nature pour dominer la chair. Si je ne le réalise pas, c'est la vieille nature qui continuera à commander. Et c'est ce que le diable veut. Le diable, il s'en fiche qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, qu'on ait des projets ou qu'on n'en ait pas. Il s'en fiche. Qu'on vienne à l'église, qu'on ne vienne pas, qu'on lise la Bible, il y a des gens qui disent, oh, le diable, il n'est pas content quand on va à l'église. Mais il s'en fiche, le diable, qu'on va à l'église. Si on vit selon la chair, au contraire, on aura un mauvais témoignage. Le diable n'en a rien à faire qu'on aille à l'église, qu'on lise la Bible et qu'on prie. Ce que le diable n'aime pas, c'est que l'on commence à marcher dans la vie de l'esprit. Parce que là, l'œuvre de Dieu peut se faire. Et c'est pour ça qu'il veut nous maintenir dans l'ignorance. Et au fur et à mesure que j'étudie, mais j'ai honte. Et je me dis, mais tu as été dans l'ignorance. Et à cause de ton ignorance, tu as maintenu les chrétiens dans l'ignorance, à la place de les amener à cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Le diable, il fait tout pour nous maintenir dans l'ignorance à l'égard de choses aussi importantes. Est-ce que c'est important la vie de l'esprit? Et comment? Alors si le diable il peut nous maintenir dans l'ignorance, dans l'incrédulité en plus, eh bien il aura gagné. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est que Dieu remporte la victoire. Et que Dieu trouve des vainqueurs dans l'église de Jésus-Christ. Si un croyant ne sait pas quelle est sa position en Christ, eh bien il est perdu, il est vaincu. Vous comprenez, je dis? Si un croyant, c'est juste qu'il est sauvé par le sang précieux de Jésus-Christ. Bon, c'est bien pour son salut éternel. Mais ça ne cause pas de dommages dans le royaume. Par contre, dès qu'un chrétien commence à savoir quelle est sa position, qu'est-ce qu'il est vraiment en Christ, que c'est un héritier du trône, etc., etc., je peux vous dire qu'il va commencer à comprendre peut-être ce qu'il faut faire pour aller dans la victoire. Oh, que Dieu nous donne de vivre dans la réalité de ces choses. Que nous puissions méditer, faites comme moi. Moi, je le travaille davantage parce que je dois le prêcher. Mais faites-le. Faites-le. Il y a un livre excellent que beaucoup de gens n'arrivent pas à lire en entier. C'est le livre L'homme spirituel de Wachmani. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Moi, la première fois que je l'ai lu, je n'ai rien compris. Je ne sais pas si vous l'avez lu ce livre. Moi, je n'ai rien compris la première fois. Je ne sais pas vous.
Mais il m'a fallu le relire, je ne sais combien de fois, pour comprendre certaines pages. Mais c'est exactement ça qu'il est en train d'expliquer. Et commandez-le, vous ne perdrez pas du temps à lire ce livre, même s'il vous faudra lire les pages plusieurs fois de suite, croyez-moi. Mais ça, ce n'est pas grave. Enfin, que Dieu vous donne la réalité de ces choses. En vivant ce que je suis en train de vous expliquer, on sortira du désert. Prenons l'illustration, justement, du peuple de Dieu à la sortie d'Égypte. Vous savez ce qui s'est passé. Lorsque Dieu a voulu enfin qu'ils sortent d'Égypte, ils s'en sont arrivés à ce moment où il a fallu qu'ils égorgent les agneaux, l'agneau pascal, et ils ont mis du sang sur les poteaux, des sangs sur le linteau, vous connaissez cette affaire, et à partir de ce moment-là, il y a eu la délivrance. D'accord, il n'y a eu la délivrance que quand il y a eu le sacrifice de l'agneau pascal. Mais il fallait quelque chose de plus. Ils étaient délivrés de l'esclavage extérieur, ils ont été délivrés de l'Égypte. D'accord ou moi? Mais qu'est-ce qui s'est passé hein, quand ils sont sortis de l'Égypte? Est-ce qu'ils étaient délivrés de leur mentalité d'esclave? Et non. Donc la délivrance du monde, c'est une chose. La délivrance de l'esprit du monde, ça en est une autre. Et le peuple hébreu dans le désert, qui est resté dans le désert, représente le peuple de Dieu qui est dominé par la vie naturelle ou la vie charnelle. La vie charnelle a pris le dessus. Ils ont été délivrés physiquement de l'Égypte, mais dans le désert, ils n'ont pas pu prendre la victoire et ils sont restés dans la défaite. Ils n'ont pas pu rentrer dans l'héritage de Dieu. Et ça représente vraiment l'Église qui n'a pas compris ce qu'était la mort au péché, et qui reste dans le désert. C'était le peuple de Dieu. Est-ce que quand ils sont sortis d'Égypte, c'était le peuple de Dieu? Est-ce que c'était les rachetés de l'Éternel? Ben oui. Est-ce que Dieu était avec eux? La colonne de feu, la nuée, la manne, est-ce que c'était avec Dieu était avec eux? Dieu était avec eux. C'était le peuple de Dieu. C'était les rachetés du Seigneur. Ils étaient sauvés, mais ils ne sont pas devenus les héritiers, ils ne sont pas devenus les vainqueurs. Ça ne remet pas en question le salut. Ce n'est pas parce que nous sommes charnels que nous sommes perdus, à moins que nous descendions de plus en plus dans le péché, et là on peut perdre le salut. Attention, quand est-ce que quelqu'un perd le salut? Ça c'est un autre sujet. Mais ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis de la condamnation qui pesait sur eux du monde, mais ils étaient dans la mentalité d'esclaves. Quand ils sont arrivés à Kadesh Barnéa, ils ont dit « qu'est-ce que c'est cette eau amère ?» Ils n'ont pas compris qu'il y avait tout un processus de mort. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Dieu aurait pu faire que l'eau soit bonne de suite? Ben oui. Avec tout ce qu'il avait fait, avec les miracles qu'il avait fait en Égypte, je ne pense pas que ça aurait été difficile pour Dieu de faire l'eau douce à la place de l'eau amère dès le départ. Mais il voulait leur enseigner la mort, le renoncement, avant d'entrer dans le pays de Canaan. Et quand on a une mentalité d'esclave, vous avez lu, il y en a même qui pensaient qu'il valait mieux retourner en Égypte. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous? Ils pensaient qu'à eux. Quand on est charnel, on pense qu'à soi. Les frères et sœurs persécutés, c'est loin, c'est très lointain. Les frères et sœurs qui souffrent, l'œuvre de Dieu, bon, c'est bien, ben, on aura le temps. Quand on est charnel, c'est ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte. Et c'est terrible ça. Quand un chrétien pense que ça serait mieux de retourner dans le monde, c'est que je peux vous dire qu'il n'a jamais rien compris à la crucifixion de la chair. Voilà. Et que d'énergie, 40 ans dans le désert. Vous rendez compte de toute l'énergie qu'ils ont gaspillée dans le désert. Ça a servi à quoi? Allez. Ils n'ont pas connu la victoire. Je le répète, ça n'avait rien à voir avec le salut. Ça avait à voir, ils ont perdu l'héritage. Et la croix nous est nécessaire pour le pardon des péchés, mais elle est nécessaire tous les jours. C'est pour cela que Paul dit « Je suis crucifié avec Christ ». La croix nous est nécessaire pour le salut et elle nous est nécessaire tous les jours pour faire mourir les membres qui sont sur la terre. On l'a lu. C'est pour ça que Jésus dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de la croix ». Ça ne veut pas dire qu'il faut trouver tous les jours une occasion de souffrir. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut tous les jours veiller à ce que ce soit la croix de Christ qui domine notre vie. Nous ne devons pas croire que nous sommes arrivés à un point parce que nous avons fait des progrès ou que nous pouvons nous passer de la croix. Mes frères et sœurs,
quand on commence à se passer de la croix, c'est fini. C'est pour ça que il faut faire attention de toujours prêcher la croix dans les églises, de chanter des cantiques sur la croix, d'amener la prédication de la croix. Elle est une salut pour que les pécheurs se convertissent, mais c'est une puissance de salut pour les chrétiens. La chair sera toujours opposée à l'esprit. La chair, il faut la faire mourir, et même si nous sommes morts, elle est tout le temps en train de regimber, d'essayer de prendre le dessus, et la seule arme que nous avons pour la victoire, c'est la croix. Nous avons tout essayé. Je parlais dimanche du jeûne, de la prière, qu'il faut pratiquer, c'est évident. Mais la seule arme capable de crucifier la chair, c'est la croix. Il a plu à Dieu de sauver les croyants, comment ? Par la folie de la prédication. Les croyants, ils sont déjà sauvés. Il aurait pu être écrit, il a plu à Dieu de sauver les pécheurs par la folie de la prédication, oui ou non ? Et Dieu dit, il a plu à Dieu de sauver les croyants, parce que les croyants sont dans ce salut continu, dans cette puissance continue, dans cette vie de victoire, par la croix. Marcher dans l'esprit de la croix, c'est un choix, c'est une décision. Pourquoi vous êtes là ? Parce que ce sujet vous intéresse, parce que vous dites, je veux la victoire, je ne veux pas mourir dans le désert, je ne veux pas passer ma vie à tourner en rond dans le désert, je n'ai pas envie, quand je passerai devant Dieu, qu'il me dise que j'ai été un échec, parce que je n'ai pas eu la victoire sur la chair. Ça serait terrible de passer devant Dieu et de ne pas avoir pu faire son œuvre parce que nous n'aurons pas marché selon l'esprit. Donc, mourir, c'est marcher par l'esprit. C'est un choix. Je veux que les choses spirituelles dominent les choses charnelles. Est-ce que c'est votre choix ? C'est ça qu'on veut. On est devant Dieu. C'est sérieux. Hier soir, avec mon époux, nous entretenons du respect dans la maison de Dieu. Parce que franchement, en étudiant ce sujet, je me dis, mais quand même, quand on parle du Saint-Esprit, qui est au milieu de nous. Nous sommes chacun le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que ça ne nécessite pas du respect dans la maison de Dieu ? Comment devons-nous venir dans la maison de Dieu ? Est-ce qu'il ne faut pas venir avec respect, mes frères et sœurs ? Moi, je suis en train de réaliser que dès qu'on a affaire au Saint-Esprit, on a affaire à la sainteté de Dieu. Comment pouvons-nous avancer dans la vie sainte de l'Esprit ? Si nous ne nous sanctifions pas, si nous ne comprenons pas qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans la maison de Dieu et faire les choses n'importe comment et se comporter n'importe comment, ce n'est pas possible. Je vous assure, on y reviendra, on continuera, plus j'étudie, plus j'ai l'impression que je vais pouvoir prêcher des années là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Rappelez-vous la prédication, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. On doit apprendre. Pour l'expérimenter, il faut l'apprendre. C'est un apprentissage et ça doit devenir une espèce de réflexe, à savoir comment dominer la chair, comment faire mourir cette chose. Vous voyez, il a parlé de jalousie, de dispute. Voilà, comment dominer ces choses ? Parce que ça peut nous arriver. Hein ? Si vous vous mettez en colère, qu'est-ce qu'il ajoute ? Ne péchez pas. Donc, il y a des choses qui peuvent nous irriter. Il n'y a pas des choses qui vous irritent ? Seigneur, je ne veux pas m'irriter. Je veux déposer tout cela à tes pieds. Oui, il y a un apprentissage qui doit devenir une espèce de réflexe, comme quand on apprend à conduire au début, on mélange les pédales, et puis après on le fait machinalement. C'est vrai ou c'est pas vrai, hein? On le fait machinalement. Vous avez déjà conduit une voiture automatique, hein? Vous avez vu la première fois qu'on prend une voiture automatique, on cherche la pédale du milieu, non? Il faut rechanger sa façon de faire. Eh bien c'est pareil, quand on veut marcher par l'esprit, il faut réapprendre une autre façon de fonctionner, et il faut que ça devienne quelque chose de naturel. Il faut partir du principe, la loi du péché habitera toujours dans nos âmes. Et elle essayera toutes les situations pour se manifester chaque fois. Parce qu'il y en a dans la vie des occasions pour que la chair se manifeste. Oui ou non ? Bon, alors appliquons-nous. Appliquons-nous par la foi. Par la foi, le secours de l'homme n'est que vanité. Par la foi dans la puissance de la croix. Un chrétien qui est né de nouveau doit apprendre à marcher par l'esprit. Il doit savoir qu'il doit y arriver. Je vous le dis de la part du Seigneur, vous allez y arriver. Si vous êtes sérieux, si vous renoncez à ces choses charnelles, si vous dites ça c'est charnel, ça les divisions c'est charnel. Combien de fois on a discuté avec les anciens de division qu'il y a à Toulouse ? On en parlait. Et la conclusion, elle a été, une division ne peut pas être bénie. Pourquoi ? Eh bien parce que les divisions, c'est les œuvres de la
Voilà. On nous a souvent posé la question, mais est-ce que Dieu ne peut pas bénir une division? Écoutez, non. Parce que les divisions, ce sont l'œuvre de la chair. Vous voyez, ce sont des choses que l'on comprend. Là, je vous donne par rapport à une division, ça touche aux églises, c'est sérieux. Ce serait plus les pasteurs qui devraient entendre ces choses. Vous voyez, mais c'est valable dans tous les autres domaines. Je vais méditer ceci, je vais méditer cela. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit domine notre vie, nous mettons à mort les œuvres de la chair. Alléluia. Et c'est pour cela que quelqu'un qui reste dans la présence de Dieu, pas pour rester dans la présence de Dieu et jouer la montre, mais quelqu'un qui se tient dans la présence de Dieu, qui lit la parole de Dieu, il apprend à marcher par l'Esprit. C'est pas vrai? Il apprend. Et ça s'apprend, mes frères et sœurs. Marcher par l'Esprit, ça s'apprend. Quand Paul dit « Faites mourir ce qui est charnel », eh bien, ça s'apprend. Voilà. Ce qui est mort ne peut plus rien produire. Si vous faites mourir le poisson rouge parce que vous ne l'alimentez pas, ma fille, elle est venue passer 2 mois cet été. Quand elle est arrivée, elle dit un petit poisson, vous savez. Et j'ai dit, je le savais le résultat. J'ai dit, au fait, le poisson, quand vous êtes rentré, hein, il était mort. 2 mois dans un petit aquarium, c'est sûr que... Quand vous n'alimentez pas, vous le faites... Quand vous n'alimentez pas ce qui dans notre vie, nous n'alimentons pas ce qui dans notre vie est charnel, ça finit par mourir. Alléluia. Ça, c'est important. Et la vie de Jésus se manifeste que de cette façon. Oui, la croix, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix, c'est une malédiction pour la chair. Et je suis persuadé qu'il y a des églises où on n'accepterait pas ce genre de prédication aujourd'hui. Je suis convaincu. Parce que la prédication de la croix, ça ne plaît pas à la chair. Mais il n'y a que la croix qui est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. C'est écrit ou c'est pas écrit ça? C'est écrit. La croix, c'est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. La croix, c'est la puissance qui libère la vie de l'Esprit. C'est la vie de Jésus-Christ à nous, ressuscité. Alors ne nous détournons pas de la croix. Vous aimez les cantiques sur la croix? Vous aimez cette prédication? Non pas la façon dont je prêche, mais est-ce que vous êtes d'accord avec le thème de cette prédication, l'important de cette prédication? Aujourd'hui, on se détourne de la croix. On ne veut plus entendre parler de repentance. On ne veut plus prêcher la repentance. Croyez-moi, et ça c'est profondément grave. Ne soyons pas comme ces chrétiens qui voudraient la victoire, la vie de résurrection, la puissance du Saint-Esprit, sans passer par la croix. Moi je crois que c'est un piège dans lequel je suis tombé. Je vous le dis, mais ne devenons pas comme ça. Ne demandons pas de régner sans passer par la croix. Vous vous rappelez un des premiers pièges que le diable a proposé à Jésus? Vous vous rappelez? Je te donnerai tous les royaumes de la terre, parce qu'ils m'ont été donnés, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores. Le diable a essayé de tout faire pour que Jésus ne passe pas par la croix. Oui ou non? Et si nous voulons régner avec le Seigneur, si nous voulons voir la puissance du Saint-Esprit, ne tombons pas dans le même piège. Ne disons pas, mais on peut avoir la puissance de Dieu, tout ce qu'il dit, le pasteur, c'est bien, le grand même, on peut avoir cette puissance, on va voir le côté positif. Bien sûr, ça va être très intéressant. Et bien que personne ne se mette dans l'idée que nous pourrons avoir cette vie de victoire, de résurrection, cette vie de puissance du Saint-Esprit, sans passer par la croix. Vous êtes morts, et votre vie est cachée en Dieu. Il n'y aura pas de vie de résurrection sans la croix. Et cette vie de résurrection, ça ne doit pas être une expérience du mardi soir. Ça doit être une expérience permanente. Maintenant, je vais sortir, je vais rentrer à la maison, mais je dois faire attention à ce que je vais faire, à ce que je vais dire, à ce que je vais regarder. Seigneur, je veux que cette vie de résurrection soit permanente, mais pour que cette vie de résurrection soit permanente, il faut que la croix soit permanente dans ma vie. C'est pour ça que Paul dit, je suis crucifié avec Christ. Voilà comment ces fleuves d'eau vide se manifesteront dans nos cœurs. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord de passer de l'enseignement à l'expérience? Parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'il faut. Est-ce que vous êtes d'accord de dire, oui, je veux passer par l'expérience. Je suis plein d'assurance parce que je crois que Jésus-Christ veut que je vive ces choses. Je parle pour vous. Est-ce que vous êtes plein d'assurance? Est-ce que vous croyez que Dieu est d'accord avec ce sujet? Eh oui, Seigneur, je peux être plein d'assurance ce soir. Parce que cette vie de l'Esprit, tu veux me la donner. Oui, tout est accompli.
Sans lui, nous ne pourrons rien faire. Avec lui, nous ferons des espoirs. La croix, je termine, signifie que nous pouvons rien faire par nous-mêmes. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelque chose doit être fait, tout doit venir de Jésus. Vous entendez, mes frères et sœurs ? Si quelque chose doit être fait pour Dieu, tout doit venir de lui. Et ça ne peut venir que de lui. Ça signifie que nous devons dépendre complètement de lui. Je vous ai parlé de la pomme ou du fruit. Ça, en vérité, ce fruit qui est sur l'arbre, qui est porté par la branche que nous sommes, car nous sommes des sarments, nous sommes des branches, mais en vérité, ce n'est pas la branche qui produit le fruit, ce sont les racines. Vous êtes d'accord ? Et la racine, c'est la vie cachée en Christ. Et ça signifie que cette vie n'est possible si nous dépendons totalement. Un arbre déraciné ne peut plus rien produire. Une vie qui n'est pas attachée à Christ et à sa parole ne peut rien produire, aussi un peu de religion. Et la mer Rouge, je termine parce que c'est quand même important, la mer Rouge, justement, et le Jourdain représentent les deux aspects de la croix. Quand ils sont sortis de la mer Rouge, ça représente, si vous voulez, le baptême. Le baptême, ils sont sortis d'Égypte, Dieu leur a donné une vie nouvelle. Alléluia. Mais il fallait qu'ils traversent le désert. Normalement, ça aurait dû durer 21 jours, maximum. Certains disent 14. Pour traverser le désert, il fallait 14 jours. Oui, ils ont mis 40. Mais tous les deux, la mer Rouge et le Jourdain, représentent la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La traversée de la mer Rouge représente le pardon des péchés. La traversée du Jourdain représente la mort du moi. Vous vous rappelez quand ils ont traversé le Jourdain, Dieu avait demandé qu'ils prennent 12 pierres et qu'ils les mettent au milieu du torrent. Vous vous rappelez ? Et qu'ils prennent 12 pierres du torrent au milieu, là où étaient les sacrificateurs qui portaient l'arche sur les épaules. À cet endroit-là, ils devaient prendre 12 grosses pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël et les mettre sur la terre de Canaan. C'est exactement ça. Ça représente ce qui était dans le désert qui doit être enfoui et ce qui était dans le Jourdain qui doit remettre. Et mes frères et sœurs, si nous voulons entrer dans la victoire, il faut passer la mer Rouge, c'est clair, c'est-à-dire il faut obtenir le pardon des péchés, mais il faut passer le Jourdain qui représente la mort à soi-même. C'est pour ça que Jésus-Christ a été baptisé dans le Jourdain. Ça représente la mort à soi-même. Béni soit Dieu pour le pardon des péchés et 10 fois plus béni soit Dieu pour la mort à nous-mêmes. Entrer dans une vie nouvelle. Là, au milieu du fleuve, les sacrificateurs qui portaient l'arche avec le propitiatoire qui représente la croix en fin de compte. Et quand l'arche était là dans la croix, les eaux se sont arrêtées et vous savez ce qui s'est passé. Un miracle s'est produit et enfin ils sont rentrés dans la victoire. Mes frères et sœurs, si nous voulons rentrer dans la victoire, il nous faut mourir au péché. Et on ne le fera pas avec la bonne volonté. Si vous voulez jeûner, faites-le. Si vous voulez prier, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Mais c'est Jésus qui le fait. C'est Jésus qui le fait parce qu'on a décidé d'obéir à sa parole. Alléluia. Et notre sœur me rappelait tout à l'heure qu'elle lisait les réveils de Finet. Quand on a posé la question à Finet, c'est quoi un réveil ? Alors tout le monde s'attendait à un discours de 3 mois. Il a répondu, le réveil, c'est une église qui obéit à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on va obéir à cet enseignement ? Est-ce qu'on va le transformer et le mettre en pratique ? Recueillons-nous.